Bonjour à tous. Donc, on a le plaisir d'accueillir Takeshi Miyakawa pour cette conférence. Alors, cette conférence, elle a trait au travail collectif des enseignants, ce qui n'est pas très étonnant dans le cadre d'ELEA. Il y a quand même une spécificité. On souhaitait s'intéresser avec cette conférence au travail collectif régulier, ordinaire, institutionnel des enseignants, tel qu'il se déroule dans un certain nombre de pays. On pouvait citer la Chine et le Japon. L'expérience des Lesson Studies, qui n'est pas tout à fait une expression japonaise, est bien connue parce qu'elle a été travaillée en particulier par des chercheurs américains. Et on a rarement l'occasion d'avoir une présentation directe des Lesson Studies par des personnes qui sont directement impliquées. Donc c'est une chance aujourd'hui d'avoir Takeshi Miyakawa. Alors Takeshi Miyakawa fait sa thèse près d'ici à Grenoble avec Nicolas Balachev sur les questions de preuves en mathématiques et aussi sur les questions de travail des enseignants sur lesquelles il continue à travailler et sa contribution sur une analyse des lesson studies dans le domaine de l'enseignement des mathématiques sont maintenant bien connues. Alors on a la chance d'avoir Takeshi Miyakawa pour l'année ici, donc pour une fois il n'est pas venu de bien loin pour nous rejoindre. Et c'est une collaboration au long cours et qui va se prolonger déjà la semaine prochaine avec une conférence sur les ressources des enseignants, sur les interactions des enseignants avec les ressources. Et Takeshi Miyakawa interviendra en binôme avec Binyan Xu de Shanghai pour une comparaison des dispositifs chinois et japonais qui ont beaucoup de choses en commun et en même temps des singularités. Voilà, donc bienvenue Takeshi et puis... Voilà, à toi la parole.
Merci pour l'introduction, Luc. Bonjour tout le monde. Je remercie d'abord le comité d'organisation pour cette invitation qui permet de revoir l'expérience japonaise et aussi de l'expérience française. En fait, c'est une bonne occasion pour moi aussi de revoir des chercheurs français que je connaissais déjà. Qui n'habite pas à Lyon. Donc aujourd'hui, la question principale dans cette conférence porte sur le rôle du chercheur dans le travail collectif collaboratif entre chercheurs et acteurs de terrain, surtout les enseignants. Et je pense que c'est une question souvent posée dans le réseau LEA. Et dans cette conférence, plutôt que de développer des idées théoriques sur le travail collectif, mais j'aimerais bien partager avec vous des certaines expériences de travail collectif au Japon. Et je vais essayer de donner une réponse à cette question dans un cas particulier du Japon. Donc surtout avec le dispositif de Lesson Study. Donc je vais présenter d'abord ici le dispositif, la pratique des lesson studies, qui sont souvent reconnus comme dispositifs de travail collaboratif, et aussi le rôle de chercheur là-bas en général. Et ensuite, on va voir le rôle de chercheur à travers un exemple. Je vais montrer un peu en vidéo de pratique dans ce dispositif. Et puis, je vais présenter aussi le travail de chercheur au Japon en général, parce que déjà, le rôle de chercheur en France et au Japon, il semble que c'est très différent. Et enfin, je vais présenter un certain type de travail collectif entre chercheurs et enseignants dans un cas de projet de recherche. Un projet de recherche dans lequel les enseignants et les chercheurs travaillent ensemble. Alors, la lesson study, le rôle de chercheur, je pense qu'il y a déjà pas mal de gens qui connaissent le terme lesson study. En fait, c'est une pratique sur le terrain, c'est-à-dire ce n'est pas le chercheur qui l'a inventé et implémenté, mais elle existe telle qu'elle est depuis longtemps au Japon. Et j'ai trouvé une définition dans un dico ordinaire. Il était marqué, ce sont des études sur la leçon plus idéale par les enseignants de primaire et secondaire à travers de l'ouverture de leçon aux autres enseignants et de l'échange des opinions. Donc cette pratique repose sur le travail collectif des enseignants autour d'une leçon ou séquence de leçons à concevoir et mettre en œuvre. Et elle repose aussi sur l'observation ou l'ouverture de la leçon aux collègues ou au public. Et très souvent, le processus de lesson study est formalisé ou schématisé, comme le cycle ici. Par exemple, il y a le groupe des enseignants dans un établissement scolaire fait une étude de documents curriculaires et formule les goals, l'objectif. Puis le groupe rédige ensemble le plan de leçon et puis un membre de ce groupe donne cette leçon conçue et les autres membres observent cette leçon. Et après la leçon, les membres analysent la leçon, si la leçon a bien marché ou pas. Et à partir d'observations faites pendant la leçon. Et le cycle, ça continue. Mais aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes, même en Europe et même en France, qui essayent de mettre en œuvre ce dispositif sous cette forme-là. Or, je pense qu'il y a une grande diversité de lesson study dans le monde entier et même dans le Japon. La forme et le processus des lesson study ne sont pas toujours pareils. Et la forme décrite ici, c'est surtout ce qu'on trouve souvent aux États-Unis ou en Europe. Cette forme est un peu différente au Japon. Donc aujourd'hui, je vais présenter un peu plus tard le lesson study qui se déroule au Japon. Alors, la diversité de la lesson study, ce n'est pas seulement la forme et le processus. Les rôles de lesson study peuvent être différents aussi. Par exemple, lesson study peut être conduit pour l'amélioration de l'enseignant, c'est normal, et aussi pour la formation continue initiale des enseignants. Et aussi, chez nous, par exemple, ça peut être pour la mise en œuvre d'un nouveau programme. Donc, quand on a installé un nouveau programme, au départ, les enseignants ne connaissent pas trop comment on enseigne. Donc, pour diffuser les nouvelles idées de programme, de temps en temps, la lesson study sont organisées. De plus, le contexte est très divers. Ce qui est le plus commun, c'est le lesson study comme formation à l'intérieur de l'établissement scolaire. Mais il y a aussi la formation de centre de l'éducation. Centre de l'éducation, c'est un endroit qui s'occupe de la formation continue des enseignants. Et il y a aussi la lesson study dans les activités de l'association des enseignants et dans différents niveaux, local, régional, national, etc. Et la lesson study est aussi utilisée, comme j'ai déjà dit, pour la formation initiale à l'université. Et le processus de lesson study n'est pas très simple, c'est assez difficile à caractériser. Tout à l'heure, on a vu le cycle avec 4 éléments. Mais je pense que très souvent, le travail collaboratif des enseignants est souligné. Mais au Japon, il y a très souvent le travail individuel derrière de ce travail collectif. Par exemple, je montre ici le processus de lesson study que j'ai formalisé à partir de l'entretien avec des enseignants en maths au collège. C'est à partir d'entretiens sur la lesson study à l'intérieur de l'établissement scolaire. Ça marche quelque chose comme ça. Par exemple, d'abord, un enseignant qui est désigné pour faire une lesson study cette année. Donc, c'est surtout un enseignant individuel qui est désigné pour faire lesson study, parce que c'est une formation continue pour cet enseignant. Et donc, c'est normalement cet enseignant qu'on soit premièrement les activités qui va être mises en œuvre dans la classe, par rapport au thème de l'établissement. Puis, il les amène dans la discussion avec les collègues assez proches, dans un petit groupe, donc c'est plutôt les enseignants de maths qui est assez proche, 2 ou 3 enseignants. Et puis, il aborde des activités avec dans ce petit groupe. Et puis, des fois, il y a encore le travail individuel pour réviser les activités à mettre en œuvre. Et cette discussion, il peut y avoir 2 ou 3 fois. Et après cette conception des activités, cet enseignant rédige un plan de leçon, puis il amène à une discussion dans un groupe plus grand, dans cet établissement scolaire, et discute sur ce plan de leçon assez précisément. Même le texte, il y a des gens qui corrigent le texte. Et après la discussion, cet enseignant modifie le plan de leçon. Et puis, avant la leçon ouverte, de temps en temps, il fait des essais dans les autres classes. Ça dépend de niveau scolaire aussi, parce que si c'est au collège, les enseignants enseignent certaines classes dans le même niveau. Donc c'est plus facile de faire des essais. Et enfin, ensuite, il donne la leçon ouverte devant les collègues et aussi les autres. Et il y a la discussion qui suit. Et enfin, il rédige un rapport et termine la lesson study. Il peut y avoir une variation dans ce processus, mais ce qui est très commun dans la plupart des lesson studies au Japon est les trois phases qui sont plus visibles pour nous. C'est la discussion sur le plan de leçon. Donc, par exemple, la discussion est organisée comme une réunion ici, comme ici. Et la séance, la lesson ouverte est aussi très visible pour les gens extérieurs. Comme ça, donc il y a des gens qui observent. Et la discussion après la leçon. Donc, il y a des discussions avec les participants. Bien entendu, la taille de cette leçon ouverte et discussion, c'est bien différent. C'est-à-dire le nombre de participants est bien différent. Dans ce cas-là, il y a beaucoup plus d'étudiants, plus de participants. Donc voilà, ce sont les lesson studies au Japon. Alors, notre intérêt est le rôle de chercheur. Donc ici, où est le chercheur? Dans ces photos, il y a le chercheur ici. Il est mon collègue de l'université, le professeur de l'université. Donc dans la leçon ouverte de lesson study, un expert est très souvent invité pour donner des conseils. Donc je vais expliquer un peu l'expert invité maintenant. Les chercheurs plutôt américains appellent cet expert invité « knowledgeable other », c'est-à-dire quelqu'un extérieur qui connaît bien ou qui a des connaissances profondes. Mais l'expert invité peut être non seulement le chercheur ou professeur de l'université, mais aussi l'enseignant expérimenté. Par exemple, l'enseignant expérimenté de l'établissement particulier, ça peut être la conseillère pédagogique. Il y a un système similaire de conseil pédagogique chez nous. Et des fois, c'est le chef d'établissement et d'autres établissements. Et quel est l'ordre de cet expert invité? Pour nous, Japonais, on n'a pas de réponse officielle de son rôle. Mais la plupart des chercheurs japonais s'occupent de ce genre de travail de leur manière. Donc les chercheurs japonais, ils sont très souvent invités de donner des conseils à lesson study et même pour les autres événements. Mais en plus, chez nous, il n'y a pas beaucoup de recherches sur le lesson study, parce que le lesson study, c'est plutôt les pratiques les chercheurs s'occupent, les chercheurs travaillent dans la lesson study, mais il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui font la recherche sur la lesson study. C'est surtout les Américains ou les gens extérieurs qui font ça. Donc il y a des Américains qui disent que le rôle d'expert invité, donc ce qui est marrant, ce n'est pas le Japonais qui dit ça. Et c'est, par exemple, il dit que le rôle de l'expert invité, c'est de fournir une perspective différente lors de la réaction à la lesson study, ou fournir des informations sur le contenu, les nouvelles idées ou les réformes. Et des fois, c'est aussi pour partager le travail d'un groupe de lesson study. Donc, expert invité, ils connaissent aussi d'autres projets de lesson study, donc ils peuvent donner certaines informations. Donc, je pense que ce qui est donné par le groupe aux États-Unis, je pense que oui, c'est vrai. Plus ou moins, c'est ce qu'on voit aussi au Japon. Mais je vais montrer plus tard l'exemple. Mais quand même, il y a un travail de recherche japonais, mais qui habite aux États-Unis, sur le rôle de l'expert invité. Je vais le présenter un petit peu ici. Il analyse les commentaires donnés par les experts invités dans les leçons ouvertes au Japon. Mais c'est dommage que les experts ici, ils ne sont pas les chercheurs, mais les experts, comment dire, l'enseignant expérimenté. Et il a trouvé que la structure similaire de commentaires, par exemple, après introduction, les experts ils font le résumé du programme national et de son guide, et ils parlent aussi de la problématique générale autour du sujet abordé dans cette classe. Et ils font les remarques sur le plan de leçon distribué aussi. Ils font faire les remarques sur la leçon ouverte observée. Mais il semble que ces commentaires, c'est très, comment dire, didactique dans le sens ordinaire. Ils essayent d'instruire les enseignants comment il faut écrire, par exemple, le plan de leçon, comment on fait la leçon ouverte. Et il conclut aussi dans son papier trois rôles de l'expert invité, comme apporter des nouvelles connaissances issues de la recherche et du curriculum, et un autre, montrer le lien entre la théorie et la pratique, et aussi aider les autres à apprendre comment réfléchir sur l'enseignement et l'apprentissage. Donc c'est un peu général, donc on va voir avec un exemple de lesson study, avec les données que j'ai, comment les enseignants, les chercheurs donnent des conseils, quel type de rôle ils jouent. Donc c'est un cas de lesson study que je vais présenter, et je vais voir plus concrètement le rôle de chercheur. Et aussi, c'est une bonne occasion pour vous de montrer comment on conduit le lesson study au Japon. Donc je vais présenter certaines parties de la pratique de lesson study, c'est-à-dire la leçon ouverte et la leçon à discussion après cette leçon. Donc je vais présenter d'abord un peu un contexte. C'est la classe de mathématiques pour les élèves de deuxième année dans l'établissement un peu spécial qui est rattaché à mon université. Et l'enseignant est spécialisé en maths. Bien sûr, l'enseignant au primaire, il enseigne toutes les matières, mais des fois, chaque enseignant a une spécialité. Le problème abordé dans cette séance est le suivant. Il y avait 16 passagers dans un bus, parce que plus tard, certains passagers ont pris ce bus. Le nombre total de passagers est 34. Combien de passagers l'ont pris plus tard? C'est clair? Mais comment résoudre ce problème à l'école primaire en France? C'est la soustraction. Mais chez nous, normalement, au Japon, pour ce genre de problème, on utilise le diagramme qui s'appelle le diagramme de segment ou diagramme de bande pour déterminer l'opération. Parce que déjà, à partir de texte ici, c'est pas très clair si c'est la soustraction ou si c'est l'addition. Donc c'est un peu comme la méthode de Singapour qui est connue en France aujourd'hui. Et donc cette image est prise de manière scolaire, donc on peut voir la situation et aussi le diagramme de bande. Donc au Japon, on met un accent sur la détermination de l'opération avec ce genre de diagramme. Donc ce cours, cette classe qui est conçue par cet enseignant, c'est plutôt l'objectif est d'utiliser ce diagramme pour déterminer l'opération. Je vais montrer en deux minutes ce qui s'est passé dans cette leçon ouverte. Je ne sais pas si ça marche. Ça marche? D'accord, il donne la consigne. Il demande de dessiner un dessin qui permet à. J'ai marqué aha, mais ça veut dire quelque chose, ça y est, yureka. Aha, en anglais. Aha. Donc, dans cette leçon, au lieu d'introduire directement le diagramme de segment, diagramme de bande, cet enseignant essaye de créer une séquence de situations qui permet aux élèves d'inventer ou dessiner d'une façon autonome le diagramme qui s'en ressemble à qui correspond le diagramme de Segmond.
Ils ne le connaissent pas encore.
Non, donc ils ont pas, il a pas encore enseigné le diagramme de Segmond. Donc c'est pour ça qu'il lui demande de dessiner avant de trouver la réponse. Il y a le travail individuel. Donc comme ça, il y a des participants qui observent la leçon. C'est assez rapide. Il y a des qui rédigent le travail collaboratif en groupe. Donc il essaye de dessiner un dessin par chaque groupe. Et après, il y a le développement commun de la solution.
Donc,
et chaque groupe présente leur travail et ils discutent quel dessin est pertinent. Donc il y a un groupe qui donne le dessin comme ça aussi. Donc ils discutent si c'est une addition ou soustraction. Et enfin il y a la synthèse. Il dit qu'il semble que c'est comme il y a le terme en total, donc ça implique un peu l'addition. Mais en fait, si on si on dessine un dessin, ça permet de voir que c'est une soustraction. Oui. Après 1 heure. C'est 2 heures, 2 minutes. Pardon. Donc, à la fin, il y a des différents dessins qui sont donnés. Donc, il y a des dessins qui ressemblent à celui attendu et les autres ne sont pas non. Non, pas forcément. Donc, il a dit, il a dit que certains diagrammes sont pertinents, mais les autres ne sont pas vraiment. Et après cette leçon ouverte, il y a la discussion avec des participants. Je peux passer au diapositive. Le même discipline, c'est surtout les maths. Les participants, c'est surtout les enseignants des mathématiques. Les enseignants de primaire qui s'intéressent à l'enseignement des mathématiques. Donc, non, c'est extérieur. C'est de l'extérieur. Donc, c'est un événement ouvert pour les autres écoles. Donc, des fois, il y a des enseignants qui viennent de très loin de. Je pense que ça sera mieux de répondre à la fin. Parce que déjà, il y a la discussion après, on peut voir comment les gens participent.
Et quand on répondra à la fin, vous utiliserez le micro pour qu'on entende sur l'enregistrement.
Oui.
Sinon,
OK. Donc après la leçon ouverte, il y a la discussion avec des participants qui dure pour 1 heure. Donc la structure de discussion c'est marqué ici, mais je vais montrer aussi le vidéoclip. Bon, j'espère que ça marche. Donc, c'est l'introduction de la discussion. Donc, le modélateur présente l'enseignant qui a donné son cours et présente aussi mon collègue, un professeur de l'université qui est là. Et lui, le modélateur, c'est un enseignant de l'autre école, d'autre établissement scolaire dans la même ville. Le fond, ça marche ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, ça fait rien. D'accord. Donc, le prof, d'abord, il explique l'intention de la leçon et son impression aussi. Pour, je pense, 5 ou 10 minutes. Donc, il explique pourquoi il essaie de demander de dessiner le dessin d'abord. Et après, il y a la discussion, il y a certains participants qui demandent des questions et qui donnent des commentaires. On ne va pas maintenant c'est cette partie-là. C'est bien. Il demande, par exemple, le prof utilise le terme « aha » dans son plan de leçon. Donc, tous les participants, ils ont leur plan de leçon à la main. Donc, quand ils regardent la leçon, ils voient la correspondance avec le plan de leçon et la leçon observée. Donc, comme ça, il y a pas mal de participants qui posent des questions. Et je pense que la discussion est bien organisée. C'est le modélateur demande des commentaires similaires. Après, on demande à l'enseignant de répondre. Donc, par exemple, ici, le terme de discussion, c'est la nécessité de diagramme. Certains élèves, ils ont dessiné le dessin après trouver la réponse. Donc, des fois, il y a des gens qui disent que ça n'a pas bien servi pour la peinture. Et enfin, il y a le commentaire par le professeur. Le détail, je vais montrer avec les diapos. Après cette vidéo. Ça finit comme ça. Donc, vous voyez, c'est une séance un peu formelle. Donc, il y a une variation sur la façon d'organiser la discussion, mais je pense que la plupart du cas, c'est quelque chose comme ça. C'est surtout si c'est quelque chose organisé dans l'établissement scolaire. Et donc, on va regarder maintenant un peu le détail des remarques données par le chercheur. En fait, lui, il a donné deux remarques. La première concerne les diagrammes donnés par les élèves. Il dit qu'il y a encore quelques diagrammes comme celui-ci. Donc, c'est avec des gens. Et à partir de cela, pour les enfants, il y a un décalage entre représenter la grandeur et représenter la relation entre les grandeurs. Et il dit aussi, par exemple, en cinquième année de primaire, quand on enseigne la proportion ou le rapport, les enfants ne regardent que la grandeur et ils ne sont pas assez convaincus de la proportion ou du rapport en tant que relation. Donc, c'est une remarque basée sur son analyse des produits des élèves dans la classe observée. Et aussi la difficulté des élèves connue dans la communauté de l'enseignement des mathématiques. Donc, c'était une première remarque. Et la deuxième remarque, c'était, ça concerne la justification de demander de descendre d'abord avant le calcul. Parce que c'était un sujet assez important dans la discussion. Donc, il y a certains élèves qui dessinent le dessin après le calcul. Mais lui, il dit, il y a environ 25 ans, la recherche sur la résolution de problèmes était à la mode dans le monde entier et tout le monde y travaillait. Et les gens disaient, à cette époque, les gens disaient qu'il y a les types d'enfants sur la résolution de problèmes. Premier, c'est ceux qui résolvent rapidement et font des erreurs. Et l'autre, c'est ceux qui réfléchissent profondément sur un problème. Et que ce type affecte le résultat de la résolution de problème. Donc ici, le chercheur fournit certaines informations de la recherche en enseignement des mathématiques, en mathématiques, en s'appuyant sur les travaux de recherche, un peu il y a longtemps quand même. Et il valorise la façon d'enseigner de la leçon qui était donnée dans la classe. Ça veut dire descendre d'abord et après le calcul. Et donc ici, le rôle de chercheur, à partir de ces deux remarques, on voit que il y a certains chercheurs qui ont déjà, chercheurs américains qui ont déjà parlé du rôle de rôle de chercheur, mais on peut voir aussi ici que le chercheur, le rôle de l'autre chercheur, c'est de fournir une perception différente lors de la réaction de la lesson study, apporter des nouvelles connaissances issues de la recherche. Et il valorise un aspect ou une méthode de l'enseignement observée dans la leçon ouverte. Et en plus, à part de rôle de chercheur, le travail de collectif qu'on peut observer dans ces différentes dans ces sciences, je pense que c'est plutôt le travail collectif avec un chercheur, mais comme conseiller. Donc c'est pas vraiment le travail collaboratif. Donc c'est le chercheur qui donne juste des conseils et après c'est les enseignants qui prennent ces conseils ou pas. C'est qui décide s'ils prennent ou pas. Alors c'est un exemple de lesson study avec la discussion. Et je vais maintenant présenter un peu de chercheurs au Japon qui ont des rôles un peu différents de chercheurs français. Je pense que cela nous permet de voir comment les chercheurs japonais s'engagent à la pratique sur le terrain, qui est un peu, je pense, différent. D'abord, qui est le chercheur au Japon? D'une façon générale, on appelle chercheur au Japon, chez nous, ceux qui travaillent dans les universités comme professeurs, et y compris les chercheurs de centres Institut national de l'éducation, comme il fait ici au INRP avant. Ça existe la même chose au Japon. Mais ce qui est bizarre est que pour devenir un chercheur, le doctorat n'est pas forcément indispensable chez nous. Il y a beaucoup de chercheurs qui n'ont pas de doctorat. Peut-être 2/3 de chercheurs n'ont pas. Et c'est un peu comme le formateur des enseignants devienne le professeur d'université. Et le système chez nous, le système universitaire ou scientifique au Japon, je pense que ça ne marche pas très bien. Il n'y a pas le système très solide. Donc cela veut dire que déjà la distance entre la recherche et la pratique est plus petite qu'en France, je trouve. Donc par exemple, d'une façon générale, la plupart des chercheurs japonais jouent 4 rôles qui ont des liens très étroits avec la pratique. Le premier, c'est le formateur, comme en France aussi. Il y a pas mal de chercheurs qui travaillent à SP, donc chez nous aussi. Et le deuxième rôle, c'est le conseiller, comme on a vu tout à l'heure, le conseiller dans la leçon ouverte. Mais aussi, il y a beaucoup de travail, de ce genre de travail. Par exemple, il y a le séminaire de l'association des enseignants. Donc, les professeurs sont invités de donner des conseils ou des fois de donner des conférences. Et aussi, les chercheurs universitaires, ils rédigent beaucoup de livres pour les enseignants, pas pour les scientifiques. Et aussi des articles assez courts pour les enseignants. Par exemple, c'est un bulletin, c'est un périodique pour les enseignants. Et la plupart des chercheurs, ils sont des nosphériens. Donc c'est le terme utilisé par Chevalard dans sa théorie didactique des maths en France. Ça veut dire que les gens qui pensent le fonctionnement didactique selon des modalités très différentes. La plupart des chercheurs japonais, ils sont des membres de rédaction de manuels scolaires. Et certains travaillent pour le ministère de l'Éducation, pour le programme national, et aussi pour l'évaluation nationale, etc. Et enfin, ils font aussi le travail de chercheur, mais leur recherche, à mon avis, il est orienté fortement à la pratique, comme développer une nouvelle méthode ou approche pour l'enseignement ou fournir un cadre théorique pour la pratique. Donc, je vais présenter maintenant un exemple de projet de recherche et montrer comment la recherche concerne la pratique au Japon. Donc, il y a pas mal de projets de recherche qui impliquent le travail collectif avec les enseignants chez nous. L'exemple ici est assez connu au Japon et même à l'extérieur du Japon. C'est le projet qui propose une nouvelle approche, mais les années 70, d'enseignement des mathématiques, qui s'appelle Open-Ended Approach. Ce projet concerne l'utilisation de problèmes ouverts. En fait, ce qui est marrant, c'est le projet est très similaire, se trouve aussi en France. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui le connaissent. C'est un projet de IREM de Lyon, ici, conduit particulièrement par le professeur Gilbert Azac. Je pense que c'est une coïncidence en France et au Japon. Dans ces deux projets, il y a des travaux collectifs et collaboratifs entre les chercheurs et les enseignants. Et il y a aussi un livre comme ça, même c'est très similaire comme ça. Et dans ce livre, on trouve non seulement les idées sous-jacentes de cette approche, mais aussi quelques rapports d'expérimentation qui sont rédigés par les enseignants. C'est pareil dans le cas japonais et aussi en France. Mais bien sûr, le contenu est bien différent. Déjà, le problème qui sont abordés dans ces bouquins sont bien différents. Si je reviens au projet japonais, pour ce projet, il y a 11 chercheurs et 16 enseignants qui ont travaillé d'une façon collective. Et par exemple, le problème donné était comme ça. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent le problème ouvert. Donc, par exemple, il y a 3 élèves qui ont donné des billes et ABC. Le professeur demande le degré de dispersion. Trouver autant de façons que possible de décimer numériquement le degré de dispersion. Parce que comment on définit la dispersion. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup ce genre de problème, pas en France et au Japon aussi. Mais à cette époque, les années 70, c'était quelque chose de nouvel. Ce qui est intéressant dans ce projet, et le chef de projet, le professeur de l'université, ils ont aussi développé un cadre pour valoriser cette approche avec le problème ouvert. Un des éléments était la notion d'activité mathématique. Il a caractérisé ce terme, l'activité mathématique, par rapport au monde réel et le monde mathématique. Ici, c'est le monde réel et le monde mathématique. Et il dit que le travail mathématique en classe à cette époque couvre juste une partie dans le monde mathématique. Donc, le problème ouvert permet d'aller-retour entre le monde réel et le monde mathématique. Donc, c'est quelque chose qu'il a développé à cette époque. Et aujourd'hui, ce terme « activité mathématique » est aussi utilisé dans le programme, même dans l'objectif de l'enseignement des mathématiques au primaire et au collège, ce qui est marqué ici. Et en plus, dans le guide de ce programme, il y a un schéma qui ressemble bien à ce que on a vu dans le diapositive précédent. Donc, comme ça, à partir de ce projet, on peut voir certains rôles de chercheurs et certains travaux pour les chercheurs. Mais c'est surtout, c'est plutôt le travail développemental. Par exemple, c'est de développer une méthode d'enseignant qui permet d'améliorer l'enseignement des mathématiques et développer un cadre théorique qui valorise la méthode conçue. Donc, ce n'est pas un cadre théorique pour comprendre le phénomène didactique. Et aussi, ils font de l'évaluation de la méthode conçue, ils ont fait la communication sur ses résultats, ils rédigent des livres pour les enseignants. En fait, j'ai cherché certains produits à partir de ce projet, et il n'y avait pas beaucoup d'articles scientifiques, mais quand même, il y a beaucoup de publications pour les enseignants. D'ailleurs, les tâches des enseignants dans ce projet sont un peu associative, c'est-à-dire, en principe, ce sont les chercheurs qui conduisent le projet, même l'aspect développemental, et autour de mais quand même autour de l'expérimentation, il y a des travaux collaboratifs pour la mise en œuvre de la leçon conçue. Et surtout, par exemple, la rédaction des rapports de pratique, c'est plutôt des enseignants qui font ça. Donc maintenant, voilà, on va maintenant faire un petit synthèse sur le rôle de chercheur au Japon. On a montré plusieurs choses, mais surtout notre point important, focus, c'est le rôle de chercheur. Donc à partir du travail dans le lesson study et aussi le projet de recherche au Japon, si je résume le rôle attribué, le rôle principal attribué au chercheur japonais, le premier rôle, c'est... pour moi, c'est un dirigeant de l'enseignement des mathématiques dans différents niveaux national, régional et local. Parce que déjà, dans le lesson study, c'est les enseignants qui donnent des conseils. Et aussi aussi dans le projet de recherche et aussi dans l'auteur de manuel, donc c'est tout, les chercheurs, ils occupent une place très importante pour diriger l'enseignement des mathématiques chez nous. Et le deuxième rôle, comme on a vu, c'est un fournisseur de développeur de théories et de méthodes sur lesquelles peut s'appuyer la pratique. En fait, comme on a vu tout à l'heure dans le projet de recherche, il y a un peu de rapport particulier entre l'enseignant et les chercheurs. En fait, Donc, à partir de ces deux rôles, on peut dire le rôle, le chercheur chez nous, c'est plutôt un acteur de terrain, je trouve. Et en fait, le rapport entre chercheurs et enseignants, il y a un rapport un peu spécial chez nous. Comme j'ai dit, dirigeant de l'enseignant, il y a un peu. C'est pas seulement dans la communauté de l'enseignement. Chez nous, au Japon, il y a des rapports humains, personnels, un peu spéciaux. Il y a tout le temps beaucoup de hiérarchie entre les gens. Et donc, normal, pour les chercheurs et les enseignants, c'est très délicat. Parce que c'est plutôt les enseignants, les chercheurs qui sont. Je ne sais pas comment, qui sont grandes, et oui. Donc, voilà, c'est tout, c'est le temps. Merci pour votre écoute.
Il y aurait beaucoup de questions à poser sur l'organisation même des lesson studies, sur le type de leçon que tu nous as montré, et le haha. Et surtout sur le rôle du chercheur dans ces dispositifs. Je vous suggère qu'on essaie plutôt d'avoir les questions sur la dernière partie, le rôle des chercheurs dans les dispositifs. Et puis sur des questions plus sur l'organisation, sur la leçon, peut-être que le temps de midi pourrait être mis à profit pour en discuter directement avec Takeshi. Bien. Alors là, c'est une petite question. Hein, ça demande
en général le grand débat. Non, c'est une question, je pense, assez... Bref, c'est par rapport à la présentation que vous avez faite du rôle du chercheur, il me semble, pour avoir une petite connaissance d'autres chercheurs au Japon, mais dans des domaines très différents, que ça correspond plutôt aux chercheurs en éducation, non ? Parce que, voilà, c'est ça.
Bien sûr.
Oui, je pense que c'était utile de le préciser, parce que dans certains autres domaines, je vois qu'il y a peu de liens avec le terrain. Voilà.
Oui, voilà. Donc c'est juste dans le cadre de l'éducation, dans le domaine de l'éducation.
Ok. Autre question ? Oui. Alors, présentez-vous peut-être quand vous posez votre question.
Bon, donc, Anne Alté, je suis dans le Léa, circonscription Saint-Jacques. Oui, c'est à propos du rôle attribué aux chercheurs sur la diapositive qu'on voit actuellement. Un dirigeant de l'enseignement des maths dans différents niveaux, national, régional, local. Je voulais savoir si institutionnellement, il y avait un rapport entre, par exemple, les chercheurs et puis ce qui est chez nous, les inspecteurs de l'éducation nationale. disons que je voudrais savoir comment est organisé le système, en fait, comment est organisé le système scolaire, pour voir comment cette influence des chercheurs sur l'enseignement des mathématiques au niveau institutionnel.
Au niveau ministère,
ministère de
l'éducation, par
voilà.
exemple. Donc, le chercheur japonais, donc déjà, il y a pas mal de gens qui travaillent dans le ministère de l'éducation. Donc, de temps en temps, par exemple, quelqu'un qui est comme inspecteur, il devient le professeur d'université après son travail. Donc, il travaille 10 ans pour le ministère, après il devient le professeur. Et donc, on a des liens très forts avec le ministère. Donc ça c'est le niveau national. Oui.
Oui, Suzanne, du Liban.
Donc on a vu qu'il y a beaucoup en fait de participants à la classe. Mm-hmm. Est-ce qu'il y en a parmi eux qui sont des étudiants en éducation par exemple? Parce que vous avez dit c'est une école qui est rattachée à l'université ou quelque chose comme ça, de une. Et de deux, est-ce que justement le fait de participer ou d'être volontaire pour mener une lesson study, c'est gratifiant pour l'enseignant au niveau professionnel? Est-ce que c'est rattaché à la promotion professionnelle? Est-ce qu'il obtient des points, des grades, un avancement professionnel à partir de là? Et donc, est-ce que c'est volontaire ou est-ce que chacun doit le faire pendant sa carrière aussi?
D'abord, pour la première question, il y a beaucoup de monde. Comme c'était l'établissement rattaché de l'université, donc il y a pas mal d'étudiants aussi. Donc c'est futurs étudiants, parce que dans mon université, c'est l'université pour la formation des enseignants. Et pour la deuxième question, la lesson study, il y a différents types de lesson study, mais si c'est la lesson study organisée comme formation continue à l'intérieur de l'établissement, c'est obligatoire pour tout le monde. Donc tout le monde doit faire. Donc, par exemple, cette année en mathématiques, c'est toi qui va le faire. Après, l'année suivante, c'est quelqu'un d'autre. Mais il y a plusieurs types de formation continue. Donc, il y a un prof qui m'a raconté qu'au moins, il faut faire une fois par an, chacun. Enfin, donc, dans le contexte de la formation continue à l'intérieur de l'établissement, et l'autre, c'est dans le contexte de le centre de l'éducation, de la formation continue organisée par le centre de l'éducation, etc.
Merci. Une dernière question.
Oui, Jean Simoneau, NSFEA, Toulouse. J'aurais aimé savoir, est-ce que ce type de recherche, comment ça se situe dans, vis-à-vis d'une norme enseignante et le rapport à la norme et, le rapport à la norme enseignante et comment aussi quel est le rôle entre la différence du rôle du chercheur et de l'inspecteur, comment ça se passe dans ce cadre-là?
Dans le projet de recherche, vous voulez dire
dans la lesson study et le rapport qui s'instaure aussi, enfin le rapport de la recherche aussi à la norme enseignante, enfin je veux dire aux normes académiques et aux Qu'est-ce qui permet d'évaluer qu'une leçon est bonne ou pas et qui définit ces finalités-là et quelle distance le chercheur prend vis-à-vis de ces normes-là?
Donc, oui, je pense qu'il y a beaucoup d'implicites. Déjà, pour les Japonais, il existe quelque chose comme la leçon très bonne, mais qu'est-ce qui est très bon, c'est pas très clair. Et bien sûr, mais de temps en temps, il y a des gens qui évaluent la leçon avec les élèves qui sont très actifs pour de la démarche thématique, etc. Mais donc ça peut être un sujet de recherche, en fait. Moi, j'ai écrit un article sur qu'est-ce qui est la bonne leçon. Parce que c'est vrai que beaucoup des enseignants au Japon, ils disent que oui, c'était une très bonne leçon. Mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire.
Bon, tu pourras donner les références de l'article?
Oui.
Hein, dans le compte-rendu, là, ça sera sur le site d'Eléa.
Hein?
Non, c'était en anglais. Oui, c'est en anglais.
Alors, il y a Brigitte qui sollicite encore un petit mot. Elle l'a.
En fait, je voulais juste poser une question sur l'évaluation du travail des chercheurs. Parce que c'est vrai qu'en France, on a une grosse pression au niveau de l'évaluation. On est évalué surtout au niveau de la production scientifique, des articles scientifiques. Mmh. Là, d'après ce que vous avez expliqué, finalement, il y a un gros travail, en tout cas pour les chercheurs en éducation que nous sommes, qui est plutôt vers la publication d'ouvrages ou de revues d'interface, comme on les appelle. Donc, comment on évalue un chercheur et comment il va évoluer dans sa carrière? Enfin, c'est peut-être une réponse un peu longue, mais bon, c'est une question que je me pose.
Oui, c'est le problème très difficile chez nous. Donc, en fait, mais quand même chez nous, maintenant, il n'y a pas d'évaluation au niveau national. Donc, chaque université évalue leur travail. Donc, si c'est dans une université pour la formation des enseignants, il évalue bien les publications pour les enseignants, même si ce n'est pas les publications scientifiques. Donc, mais je pense que de certaines universités, ça dépend des gens. Ça dépend des gens qui appartiennent à cette université. Donc, il y a des gens qui insistent à la publication scientifique, il y a des gens qui n'insistent pas.
Bon, alors là, c'est vraiment la dernière. Hein. Après, ça ne marche plus.
Bonjour. Est-ce que vous pensez que ce... Pardon, Fabien Meignet, je fais partie du Léa Controverse. Est-ce que vous pensez que ce modèle de Listen Study, ça peut être transposé en France? Parce que c'est quand même un protocole assez lourd, et notamment cette séance ouverte où le prof, face à un chercheur, face à plein de collègues qui fassent une séance. Est-ce qu'on peut le faire en France?
En fait, à Lyon, il y a déjà un groupe qui fait la lesson study ici. Et il y a aussi des groupes à Lausanne qui travaillent sur ça. Et je pense que c'est possible, mais d'une façon un peu différente. Donc, où ils utilisent surtout la forme de travail collaboratif dans un groupe. Donc, ce n'est pas comme la lesson study chez nous, mais ils ont dit qu'ici, c'est plus facile d'utiliser cette forme-là. Donc, ça veut dire que le groupe des enseignants conçoivent ensemble une leçon spécifique. Chacun fait dans leur classe et les autres observent. Donc, je pense que... je ne suis pas très sûr, mais la façon américaine de la lesson study, ça, c'est bien possible de faire en France, je trouve.
Bon.
Je voulais juste dire que notre collègue donc Takeshi a écrit un papier en français, donc qui est tout à fait accessible, dans Éducation et didactique, en 2009, un dispositif japonais pour le travail en équipe d'enseignants, étude collective d'une leçon. Et c'est un papier qui est tout à fait intéressant et voilà, qui est rédigé en français pour ceux que ça intéresse.
Et d'autres références seront données donc avec ta conférence.
Oui, il y a okay. Déjà quelque chose.
Bon, je propose qu'on remercie à nouveau Takeshi pour sa conférence.
Merci. Merci.
Peut-être pour un dernier petit mot en relation avec la dernière question qui a été posée sur les controverses. Takeshi est impliqué toute l'année dans un projet local qui s'appelle Penser les ressources de l'enseignement des mathématiques dans un temps de transition. C'est un projet retenu par l'Institut Carnot d'éducation et qui a un double objectif. D'abord, penser des modèles de ressources qui peuvent être transposables, communicables, partageables, et penser des modèles de processus, de conception de ressources. Et c'est un projet dans lequel il y a à la fois des enseignants et des chercheurs, dans lequel les rôles des chercheurs, en même temps, sont repensés. Alors, ce n'est pas les lesson studies à la mode américaine, mais c'est différentes façons de penser cette collaboration et ce travail à la fois propre des enseignants et avec des apports possibles des chercheurs. Et alors, le projet, c'est dans un temps de transition pluriel, puisqu'on travaille sur les transitions curriculaire entre le cycle 3 de l'école au collège, la transition aussi des programmes de mathématiques, la transition de l'algèbre à l'informatique, etc. Voilà.